À l'approche des congés d'été, les juilletistes s'apprêtent à préparer leurs valises et à faire une place dans celle-ci pour y glisser un ou plusieurs livres. Alors Christelle et Sylvain, libraires à l'indépendante à Saint-Gaudens, vont vous aider à trouver votre bonheur. Bonjour Christelle.
Bonjour Eric.
Bonjour Sylvain.
Bonjour Eric.
Nous débutons avec vous Christelle.
Et oui, alors effectivement, début des vacances, et moi je vous propose un roman qui peut être tout à fait adapté, enfin de toute façon tous les romans sont adaptés aux vacances, mais celui-ci en particulier. Alors, il s'appelle « Le mystère du dernier Stradivarius » d'Alejandro Romerz aux éditions Métayer. Alors, comment le dernier violon de Stradivari a-t-il traversé les époques pour arriver dans la cave d'un antiquaire allemand au Paraguay? Eh bien, voilà, tout le mystère du dernier Stradivarius. Tout commence en 1737, lorsque le célèbre luthier Antonio Stradivari crée son dernier violon, un instrument entouré d'une étrange aura, avec une tâche très particulière, et je n'en dirai pas plus, et surtout duquel s'élèvent des notes presque irréelles. Et puis en 2021, donc on avance un petit peu dans le temps, l'assassinat au Paraguay d'un antiquaire et de sa fille fait l'objet d'une enquête extrêmement chaotique et relance une autre enquête pleine de secrets et de zones d'ombre. Et le corps de l'antiquaire, comme celui de sa fille, porte les marques d'une violence très méthodique. Et chose étrange, la somptueuse collection d'antiquités du défunt reste intacte. Aucune trace de vol. Mais quand la police, le duo d'enquêteurs, découvre dissimulé dans une cachette le violon fabriqué par le plus grand luthier de l'histoire, eh bien l'affaire bascule. Et ce violon assez incroyable devient le centre de gravité de l'intrigue et la trame d'un récit pluriséculaire. Alors, les chapitres alternent entre l'enquête menée au Paraguay et l'histoire de ce violon incroyable de 1737 à aujourd'hui. Violon qui passe de main en main avec des références à des personnages ayant vraiment existé, comme Casanova, Verdi et le violon ira même jusque dans les camps de la mort. Alors, peu à peu, les pièces du puzzle s'assemblent et donnent au récit une profondeur certaine. Donc, vous voyez, au final, c'est un roman ample qui mélange vraiment les genres, puisqu'on a une enquête policière, un récit initiatique, des réflexions philosophiques, une fresque historique assez vaste, et puis évidemment la musique et ce violon. Donc c'est un roman intrigant, un roman plein de charme qui vous emmènera très loin dans le passé, au cœur de la musique et des passions insensées qu'elle peut susciter. Alors, je répète le titre, « Le mystère du dernier Stradivarius » d'Alejandro Romerz aux éditions Métayer.
Merci Christelle pour ce premier choix. Premier choix également, cette fois-ci pour Sylvain.
Alors oui, et là on va quitter le genre romanesque pour, ça fait un petit moment que j'en ai pas parlé, mais un récit d'aventure. J'aime bien hein, ce genre de livre, et donc là je voulais vous parler d'un livre qui s'appelle « Alaska sur la piste de Telaquana » de Elliot Schoenfeld, donc aux éditions Payot Poche, la collection Voyageurs. Alors, dans ce récit, Alaska, c'est un récit d'aventure que je trouve particulièrement extraordinaire. En fait, Elliot Schoenfeld, c'est un jeune explorateur. Il a déjà fait plusieurs expéditions, puisqu'il a, il a fait une expédition en Amazonie sur les traces d'un explorateur ancien. Il a traversé l'Himalaya. Et là, en fait, il se lance au cœur de l'Alaska sauvage et il part sur les traces d'un autre personnage assez, assez extraordinaire, dont il cite beaucoup d'extraits de ses carnets. Un homme qui s'appelle Dick, qui s'appelait, malheureusement il est mort, Dick Pronecke, qui est un Américain, qui dans les années 70, à l'âge de 51 ans, tenez-vous bien, est parti se perdre complètement au cœur de l'Alaska, et il a vécu en totale autosubsistance pendant 30 ans, puisqu'il est arrivé sur place, il a construit sa cabane au bord d'un lac, et il a commencé à prendre tout, à fumer le poisson, à faire sécher sa viande, à récolter toutes les baies qu'il pouvait avoir. Enfin voilà, il a vécu en autosubsistance. Alors bien sûr, Elliot Schoenfeld, en grand aventurier, il lit ses carnets par hasard et il veut aller sur les traces de cet homme. Alors il part seul, il a un canoë, mais il alterne entre marche et canoë quand il traverse des rivières ou quand il traverse des lacs notamment. Et il retourne donc sur les lieux de vie de ce fameux Dick Pronecke. Alors là, bien entendu, il découvre avec émerveillement une nature totalement préservée, qui est peuplée d'un patrimoine sauvage absolument hors du commun, parce que pendant cette expédition qui va durer entre 40 et 50 jours, il va rencontrer quasi quotidiennement des grizzlies, des lynx, des orignaux, des écureuils, il va pêcher le saumon. Bref, vous l'avez compris, il est en plein monde sauvage, très préservé, une nature rude et risquée, bien entendu, mais d'une beauté absolue. Et puis, alors c'est là que le livre prend encore une autre dimension. Au cours de ce voyage, il rencontre une rangers parce qu'il est sur un parc américain. Donc en fait, il y a quand même des rangers qui gardent cette nature. Et en discutant avec une personne qui travaille pour le parc, il découvre qu'il se rend compte qu'il est en fait sur la piste également millénaire qui a été empruntée par un peuple autochtone qui s'appelait les Dena'ina et qui peuplait donc l'Alaska pendant plusieurs milliers d'années, et qui vivent désormais dans une réserve au nord du territoire où ils se trouvent. Et donc il se dit, je vais continuer, et je vais aller sur la piste millénaire de ces Indiens. Alors, il y a une découverte, et il y a un contact avec ce peuple indien. Je laisse au lecteur et à la lectrice découvrir ce qu'ils découvrent. Bon, on lit ces dernières pages. Bon, d'abord, le livre est terminé, donc on est triste, mais on le lit aussi avec une certaine tristesse quand on voit malheureusement l'état dans lequel ces peuples ont été mis, alors que, il le rappelle, ils vivaient depuis des milliers d'années en totale osmose et harmonie avec cette nature qu'ils respectaient énormément. C'est peut-être la grande différence avec nous. Ils respectaient cette nature, ils savaient comment ce qu'elle leur rapportait, et donc ils chassaient, mais ils chassaient de façon mesurée. Bref, vous l'avez compris, ce livre, c'est vraiment pour moi une expérience de lecture, parce que vraiment, j'avais jamais lu cet auteur et je lirai très certainement son récit en Amazonie, mais il a un vrai talent pour vous faire vivre avec lui cette aventure quand même hors du commun, parce que bon voilà, je pense que ni vous ni moi n'avons le projet cet été d'aller vivre au bord d'un lac. Alors surtout que c'est absolument incroyable, enfin je veux dire, pour revenir, il croise des ours quasi quotidiennement, des ours qui font quand même 3 mètres de haut, hein, des grizzlies, parce que là on n'est pas sur de l'ours pyrénéen, on est sur un grizzly qui fait 3 mètres de haut, et il les croise de façon très paisible parce qu'ils sont en été, donc ils sont en train d'engraisser, donc ils mangent des myrtilles, ils mangent des baies. On apprend dans le livre que souvent ils se baignent la nuit parce qu'il est au bord de la rivière et il entend des gros ploufs régulièrement, et figurez-vous, c'est un ours qui juste le soir ou la nuit, pour prendre un peu de fraîcheur, va se baigner dans le lac ou dans la rivière. Sauf qu'il fait 3 mètres de haut et près de 800 kilos. Et donc vous avez... Mais il n'a jamais... Il a des moments où effectivement il s'interroge sur la rencontre avec ce monde sauvage. Mais voilà, il n'a jamais... Ce n'est pas le danger le plus important auquel il est confronté. Bref, moi j'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai beaucoup aimé ce livre aussi pour, bien entendu, ce regard qu'il a engagé pour défendre le monde sauvage, parce que plusieurs fois il a des phrases excessivement critiques parce que là, il est probablement sur une des zones préservées où effectivement le monde sauvage a encore sa place, mais elle est de plus en plus réduite. Et ce livre est aussi un petit peu un coup de gueule pour dire regardez ce qu'on a fait ailleurs à la planète et on est en train de saccager cette nature. Bon, je pense que les jours que l'on vient de vivre se passent de commentaires. Hein. Ça en fait partie également. L'extinction de la biodiversité est un des maux de notre monde qui est absolument révoltant. Et là, on a une espèce de parenthèse où on se rend compte qu'il y a encore des endroits préservés, il y a encore des endroits où vous avez une sorte d'harmonie dans la nature et ça fait le plus grand bien. Donc vraiment, voilà, c'est un livre que j'ai beaucoup, beaucoup aimé et il a de multiples qualités et il va vous faire partir, on est peut-être sur les livres de vacances, mais il va vous faire partir très loin sans forcément prendre l'avion. Alors, donc, je répète le titre, c'est Alaska sur la piste de Telaquana de Elliot Schoenfeld, donc aux éditions Paille aux Poches.
Alors nous allons à présent passer à vos second choix, Christelle.
Oui, alors, vu que nous arrivons sur la fin de la saison 2025-2026, j'avais envie de profiter peut-être de nos dernières émissions avant la pause estivale pour revenir sur quelques premiers romans sortis l'année dernière, premiers romans que j'ai beaucoup aimés. Alors, le premier sur lequel je souhaitais revenir s'appelle La Bonne Mère aux éditions L'Iconoclaste de Mathilda Di Matteo. Donc, encore une fois, oui, un premier roman vraiment qui a bien fonctionné, qui a eu un bon bouche à oreille, que j'ai beaucoup aimé. Et c'est un premier roman très explosif, aux mille facettes, tragicomique, autour des relations mère-fille, mais pas n'importe quelle fille et pas n'importe où. Et pas n'importe quelle mère, surtout. Donc, direction Marseille et la Canebière. D'emblée, le décor est planté et c'est vrai que ça sent bon le sud. Et c'est vrai que vous le verrez, il y a vraiment une couverture qui est très, très réussie, très colorée. Et nous allons suivre chapitre après chapitre les relations parfois tumultueuses entre une mère au franc-parler qui assume complètement son côté cagole avec ses copines, les virées à la plage, les virées shopping, les trucs qui brillent et les talons hauts, et sa fille Clara. En tout son opposé. Clara, c'est une brillante élève. Elle rêve d'ailleurs et elle rêve de sortir de son milieu. Alors, direction Paris et Sciences Po, qu'elle réussit, et la rencontre avec celui qu'elle appelle le Girafon, un fils de bonne famille à la lignée politique prestigieuse. Alors, dans une première partie, à la langue travaillée et parfois vraiment truculente, au fort accent de la Canebière, eh bien, l'autrice installe ses personnages principaux dans leur vie, dans l'éloignement de Clara, avec les ressentis de chacun et chacune. Et puis, petit à petit, le roman bascule sur des thèmes bien moins légers autour de la condition féminine et des violences faites aux femmes. Et je trouve que l'autrice les traite justement de manière crescendo, de manière très subtile, tout en nous laissant dans une forme de tourbillon de couleurs et de talons hauts. Et donc, voilà, vraiment un premier roman, moi, que je recommande vraiment fortement, peut-être pour commencer cet été. Et puis, peut-être un dernier commentaire pour dire que Mathilda Di Matteo, effectivement, a fait ici une belle entrée en littérature. Et entre Marseille et Paris, du choc des classes sociales dans les grandes écoles, en passant par une description touchante des relations mère-fille et de la place des femmes, voici un premier roman, donc fort remarqué, fort réussi. Et j'espère que Mathilda Di Matteo annoncera prochainement un second roman tout aussi réussi. Hein. Donc La Bonne Mère de Mathilda Di Matteo, aux éditions L'Iconoclaste.
Merci Christelle. Nous allons retrouver Sylvain avec un lien avec un film qui est à l'affiche au cinéma Le Régent à Saint-Gaudens.
Tout à fait. Alors effectivement, ça m'a donné envie d'en parler parce que le cinéma Le Régent, donc depuis quelques jours, diffuse un animé donc, qui s'appelle In Waves, que j'ai pas encore vu mais que j'ai très envie de voir, et qui est tiré d'un roman graphique qui était sorti il y a quelques années, donc d'un jeune auteur américain qui s'appelle Aj Dungo, et c'est sorti donc aux éditions Casterman, et ça s'appelle In Waves. Alors, c'est difficile un petit peu d'en parler parce que il y a une très forte dimension esthétique. Mais là, on est à la radio, je ne peux pas montrer effectivement le dessin, mais c'est un album, une BD absolument remarquable qui va raconter plusieurs histoires. Qui va raconter déjà l'histoire de deux jeunes personnes, un jeune homme et son ami, sa copine, Kirsten. Et donc, il va raconter la confrontation pour Kirsten très jeune à la maladie, au cancer et à la mort. Et donc c'est déjà un roman fort sur cette relation amoureuse mais qui est percutée par la maladie, mais en même temps les deux ont depuis toujours une passion folle pour le surf, d'où le titre In Waves. Et donc il va aussi nous parler de ça, de sa passion aux deux pour le surf, mais aussi, et c'est ça qui est très intéressant, de l'histoire du surf à Hawaï, comment les peuples premiers à Hawaï ont toujours surfé, la signification religieuse qu'avait le surf, et puis ensuite comment ça a été importé en Californie avec des grands champions américains. Voilà. Et donc vraiment, voilà, vous avez plusieurs récits croisés. L'album est très, très esthétique. Il y a vraiment des planches. Alors, on a deux couleurs, hein, parce que selon le thème qu'il aborde, il choisit un code graphique et un code couleur. Le code couleur, c'est du bleu ou c'est du marron sépia. Vraiment, vous avez un roman graphique qui est à la fois d'une très grande beauté, d'une très grande émotion, et qui raconte des choses tristes et en même temps des choses joyeuses, hein, un petit peu à l'image de la vie d'ailleurs, hein, qui est souvent un mélange des deux, malheureusement. Et donc, du coup, voilà, vous avez ce roman graphique dont a été tiré donc, un film. D'ailleurs, à la fin, il y a une édition donc, qui donne une petite par justement à l'adaptation graphique, comment ils ont travaillé et comment ils ont adapté ce roman graphique. Donc ça, c'est un petit supplément qui vient d'être publié avec les dernières éditions de cet album graphique qui a eu un énorme succès, mais vraiment très, très mérité. Je crois que c'était un des premiers albums de ce jeune auteur, Aj Dungo, qui depuis vient de faire un livre consacré au skateboard. Donc visiblement, lui, voilà, tous les sports de la glisse, apparemment, ça le concerne. J'ai pas encore lu, j'ai juste feuilleté, mais ça m'intéresse énormément. Mais encore une fois, je vous invite à aller voir, bien entendu, le film au cinéma Le Régent, puisqu'il le passe depuis quelques jours, et je crois que c'est un très très bel animé. J'ai juste vu la bande-annonce et elle me fait très envie, mais surtout également, précipitez-vous sur ce roman graphique qui est un véritable petit bijou, à la fois de délicatesse, d'histoire psychologique, mais en même temps de très très grande beauté de dessin. Moi, je suis très ému à chaque fois que j'ouvre. Il a une façon de retranscrire les vagues, les plis de la mer, le mouvement du surf qui sont absolument étonnants. Voilà, donc vraiment, je vous rappelle le titre, donc In Waves de Aj Dungo aux éditions Casterman.
Alors, ne bougez pas, puisque vous allez poursuivre cette émission avec une animation qui a lieu aujourd'hui, vendredi 3 juillet.
Voilà, oui, alors on a le plaisir à la librairie d'accueillir en fait une toute jeune autrice, puisqu'elle publie son premier roman. Alors c'est toujours un moment, nous en tant que libraire, que l'on aime beaucoup, parce que quand quelqu'un se met à écrire et publier et publie son premier roman, bah, d'abord à titre personnel, c'est une aventure pour la personne, et puis bah, nous en tant que libraire, on est toujours très heureux de découvrir une nouvelle voie de la littérature. Alors donc, c'est un livre donc de Catherine Castel-Darro qui s'appelle De chair, de miel et d'os et qui est aux éditions Vox Scriba, donc qui est vraiment sorti il y a tout juste quelques jours. Ça se passe dans les Pyrénées, c'est plutôt un polar, mais un polar avec un petit peu de fantastique. Hein. Il va y avoir une enquête qui va être menée avec une espèce de personnage un peu inquiétant. Et donc, on va être autour aussi des superstitions qui peuvent être attachées aux montagnes pyrénéennes et aux espaces sauvages. Voilà. Et donc, du coup, il va y avoir l'enquête par une jeune brigadière qui vient du nord de la France et qui n'a rien à voir avec cette histoire pyrénéenne et ses légendes, et elle va essayer de voir un petit peu, de démêler le vrai du faux. Voilà, donc c'est vraiment un polar qui se passe dans les Pyrénées, et avec au passage une magnifique couverture, puisque vous voyez une très belle tête de cerf, hein, oui. Un cerf magnifique, enfin c'est pas une tête empaillée, hein, c'est vraiment un cerf pas en pied, mais on voit sa tête et ses magnifiques bois. Voilà, donc juste une chose, effectivement, Catherine Castel-Darro sera en dédicace ce jour même à la librairie, donc vendredi, oui. Ce vendredi, voilà. Donc, à deux temps d'échange pour celles et ceux qui souhaiteraient découvrir son roman et venir la rencontrer. Donc, en fin de matinée ce vendredi, de 11h à 13h, et ensuite, en fin de journée, de 18h à 19h, avant la fermeture de la librairie, vous pourrez venir la découvrir son roman et bien sûr échanger avec cette nouvelle autrice qui apparaît dans Le Comminges.
Ce vendredi 3 juillet, ici à la librairie indépendante à Saint-Gaudens. Merci Sylvain.
Merci beaucoup Eric.
Merci Christelle.
Merci Eric.
Et je rappelle que vous êtes tous les deux libraires à l'indépendante à Saint-Gaudens. Merci.